Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible, décentralisée, à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Stéphane Croza et Audrey Guélou.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission du cours WE1, écrire sur le web. WE1, c'est un cours créé et animé à l'UTC par Stéphane Croza, où on aborde à la fois des connaissances théoriques sur le fonctionnement du web, des connaissances pratiques aussi nécessaires pour savoir mettre en ligne son propre site web, des outils méthodologiques aussi pour mener à bien un projet web, et puis enfin quelques questions éthiques, politiques, culturelles qui sont toutes liées au web. Alors si cela, tout ça vous intéresse, vous pourrez trouver tous les supports de cours sur le site librecours.net. Alors ce semestre encore, les étudiants et les étudiantes de WE1 ont constitué des groupes pour réaliser un projet autour d'une problématique technologique du web. Donc ils et elles ont choisi un sujet et ils ont publié un dossier thématique en ligne qui comprend notamment un ou plusieurs articles et puis aussi des fiches de lecture. Alors au programme des trois sessions de présentation de ce semestre, donc ce sera ce mercredi, la semaine prochaine et dans deux semaines de 14h30 à 16h15, vous pourrez écouter six groupes au total qui vont venir vous parler de leurs travaux. Ce sera sur la mémoire du web, l'interopérabilité, l'allotechnicisation, les moteurs de recherche et puis bien sûr, ce que l'on nomme intelligence artificielle générative. Ce sera dans des exposés qui articuleront ces nouveaux outils technologiques avec d'autres enjeux que l'on aborde en WE1, comme le droit d'auteur ou bien la culture libre également. Alors on va commencer cette série d'émissions avec Océane, Martin, Tom, Aeva et Alexandre. Bonjour à vous cinq.
Bonjour.
Vous avez choisi de réaliser votre dossier sur le thème des moteurs de recherche et des robots conversationnels. Vous allez nous expliquer quel lien on peut faire entre ces deux outils numériques. Et puis les autres étudiants et étudiantes sont à l'écoute de votre intervention. Ils ont pour mission de vous poser quelques questions sur Mattermost, un outil de conversation que l'on utilise. Donc c'est dans l'équipe WE1 Canal Live sur team.picassoft.net. Je vous relayerai leurs questions au micro de ce studio. Alors Océane, si tu es prête, tu vas commencer donc eh bien, par nous expliquer ce que sont les moteurs de recherche. Si tu es prête, c'est à toi.
Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme Audrey vient de le présenter, nous sommes intéressés à l'évolution des recherches sur le web en passant des moteurs de recherche aux robots conversationnels. Donc, nous allons plus particulièrement nous attarder sur comment nous pouvons construire une littératie numérique autour de ces nouveaux outils. Notre intervention se déroulera donc en 5 parties. Je vais vous parler dans un premier temps des moteurs de recherche. Martin prendra ensuite la parole pour vous présenter les robots conversationnels. Tom continuera par faire un état des lieux des limites des moteurs de recherche avant que Aeva commente et compare ces limites avec celles des robots conversationnels. Enfin, donc, Alexandre terminera notre intervention en présentant les initiatives disponibles pour améliorer la fiabilité des informations proposées par les moteurs de recherche et les robots conversationnels. Donc, je vais commencer par vous présenter les moteurs de recherche. Ma présentation s'appuiera sur le livre « Les moteurs de recherche » de Guillaume Cyr, paru en 2016 aux éditions La Découverte. Donc, les moteurs de recherche, nés peu avant le XXIe siècle, sont utilisés aujourd'hui par tous les utilisateurs souhaitant trouver une page web. Pour comprendre le fonctionnement de ces moteurs de recherche, il faut distinguer 4 grandes étapes : collecter, indexer, apparier et acheminer. La première étape consiste donc à collecter les informations disponibles sur le web. Pour cela, les moteurs de recherche utilisent des programmes appelés crawlers ou robots d'indexation, qui parcourent le web en suivant les liens hypertextes. La deuxième étape consiste à indexer les informations collectées par les crawlers. Il s'agit de répertorier les résultats dans un index, c'est-à-dire une base de données qui contient les mots-clés associés à chaque page web. L'indexation permet de classer les pages selon leur pertinence potentielle pour une requête donnée. La troisième étape consiste à apparier les requêtes des utilisateurs aux pages indexées. Il s'agit de déterminer quels sont les résultats les plus pertinents pour répondre à une question. Pour cela, les moteurs de recherche utilisent des algorithmes qui prennent en compte différents critères. L'un des algorithmes les plus connus est le PageRank, inventé par Google. Cet algorithme mesure l'importance relative d'une page en fonction du nombre et de la qualité des liens qui pointent vers elle. Pour calculer l'importance relative d'une page, Google se base sur le modèle du surfeur aléatoire. Pour illustrer ce modèle, je vous propose d'écouter un extrait de la vidéo « How Google's PageRank Algorithm Works » de la chaîne YouTube Spanning Tree qui l'explique.
Random surfer model. The idea is this. Imagine someone browsing the web. They begin on some page chosen at random, and then they randomly pick a link from that page to another page that they visit. The random surfer keeps repeating this process. Pick a link randomly, visit a new page. Pick another link, visit another page. The idea now is that we will keep score. will maintain a count of how many times our random surfer visits each page. Each time they land on a new page, we'll update that page's score. Pages that have more links to them are more likely to be visited, so they'll eventually have higher scores. And because those pages are more likely to be visited, the pages they link to are also more likely to be visited. So a link from a more important page will matter more than a link from a less important page. After we continue this process for a while, we can take a look at the resulting scores and calculate what percent of the total score each page's score is. This gives us some measure for the relative importance of these pages.
Donc pour résumer ce que l'on vient d'entendre, le modèle du surfeur aléatoire est un modèle probabiliste. Il consiste à attribuer à chaque page web une probabilité proportionnelle au nombre de liens sortants qu'elle contient. Ainsi, une page avec beaucoup de liens sortants a plus de chances d'être visitée qu'une page avec peu de liens sortants. Le page rank est un critère parmi d'autres pour évaluer la pertinence d'une page. La quatrième et dernière étape du fonctionnement d'un moteur de recherche consiste à acheminer les résultats aux utilisateurs. Les moteurs de recherche utilisent généralement un design minimaliste avec une barre de recherche au centre et une liste de résultats sous forme de liens accompagnés d'un titre, d'un extrait et d'une URL. Ils peuvent aussi proposer des fonctionnalités supplémentaires comme la suggestion automatique ou la personnalisation. Après vous avoir décrit les grandes étapes du fonctionnement des moteurs de recherche, nous allons voir qu'il existe aussi différents types de moteurs selon les volontés des utilisateurs. On peut distinguer trois grandes catégories, les moteurs généralistes, les métamoteurs et les moteurs spécialisés. Les moteurs généralistes sont ceux qui couvrent l'ensemble du web et qui visent un large public. Le plus connu est Google, qui domine largement le marché mondial avec plus de 90% des parts. Mais il existe aussi d'autres acteurs comme Bing ou Baidu. D'autres moteurs de recherche veulent se différencier et prendre à contre-pied les moteurs dominants dans les controverses dont ils font l'objet. Quelques exemples sont Ecosia, qui reverse une partie de ses revenus à des projets écologiques, ou DuckDuckGo, qui ne collecte et ne partage aucune information personnelle. Les métamoteurs sont ceux qui interrogent plusieurs moteurs généralistes en même temps et qui agrègent leurs résultats. Ils permettent d'élargir la couverture du web et d'éviter la dépendance à un seul moteur. On peut citer Dogpile ou Yippie. Les moteurs de recherche spécialisés, eux, sont ceux qui se concentrent sur un domaine particulier du web ou sur un type spécifique d'information. Ils permettent d'affiner la recherche et d'accéder à des sources plus pertinentes. Il en existe de nombreux, par exemple Google Scholar pour les travaux scientifiques, Workopolis pour les emplois ou encore Bing News pour les actualités.
Merci Océane, merci pour cette explication donc de comment fonctionnent les moteurs de recherche. Alors, tu as employé le mot de littératie en présentant la problématique de votre groupe et en introduisant donc la partie que tu viens d'expliquer. Et donc, pour rappel, hein, la littératie dans le domaine du numérique, c'est la capacité à utiliser les outils numériques de notre environnement et à les comprendre de façon à pouvoir agir de façon assez autonome dans une société articulée autour des technologies numériques. Alors, en nous expliquant le fonctionnement des moteurs de recherche, eh bien, tu viens d'améliorer notre littératie numérique, hein, en nous expliquant comment ça fonctionne. Pour ce qui est de l'usage, notre usage à nous des moteurs de recherche en tant qu'utilisateur, utilisatrice, est-ce que tu pourrais nous donner quelques conseils, des choses à faire pour utiliser au mieux les moteurs de recherche ?
Donc du coup, tout d'abord, je pense qu'un des meilleurs conseils, ça pourrait être de surtout ne pas se fixer sur un seul moteur de recherche. Donc dès qu'on a une recherche à faire et qu'on veut un avis assez global et assez pertinent, je pense que c'est assez intéressant de pouvoir de poser cette recherche, cette question à différents moteurs de recherche. Donc ils vont avoir des réponses différentes et une liste classée différemment parce que selon leur mode de fonctionnement, bien évidemment, ils ne vont pas répondre la même chose. Je pense aussi que selon ce qu'on veut chercher, du coup, par exemple, on pourrait utiliser les moteurs spécialisés. Ça peut être aussi intéressant donc, d'utiliser les moteurs spécialisés selon ce qu'on veut rechercher.
C'est pas mal déjà, effectivement, diversifier hein, son utilisation des moteurs de recherche. Et puis, selon les types de recherches que l'on veut faire, ne pas se cantonner à un seul outil. C'est une réponse intéressante, effectivement. Alors, on va passer à la partie de Martin. Martin, de ton côté, tu vas nous parler d'un autre outil, un nouvel outil hein, qu'on utilise peut-être un petit peu plus là depuis quelques mois, hein, qui s'appelle donc les robots conversationnels. Alors, Martin, c'est à toi.
Bonjour à tous et à toutes. Alors de mon côté, comme l'a dit Audrey, je vais vous parler des incroyables outils que sont les agents conversationnels, donc tels que ChatGPT et BART. Donc si vous avez déjà eu recours à cette moteur de recherche nouvelle génération, vous savez à quel point ils peuvent être fascinants. Pour vous guider un peu dans cette exploration, je m'appuierai principalement sur les travaux d'Andrej Karpathy, chercheur chez OpenAI, qui communique beaucoup sur ces nouvelles technologies. Ces conférences sont vraiment intéressantes et je souhaiterais partager avec vous quelques-uns de leurs points forts. Lors de mes recherches, j'ai été particulièrement intrigué par le fonctionnement interne des moteurs d'apprentissage automatique qui alimentent les chatbots que nous voyons émerger aujourd'hui. Je vais me concentrer sur ChatGPT, qui est actuellement l'un des modèles les plus populaires, mais ces concepts s'appliquent également à d'autres modèles. Pour comprendre comment ChatGPT fonctionne, il est essentiel de comprendre le moteur qui se trouve en dessous, le fameux GPT-3. Le principe est en réalité assez simple. GPT-3 est un modèle spécialement entraîné pour une tâche spécifique, compléter une suite de mots de manière cohérente. Pour ce faire, il a été nourri d'une énorme quantité de textes, et à partir de ces données, il tente de deviner le mot qui pourrait le mieux compléter le texte donné en se basant sur des probabilités. Par exemple, si on lui donne la phrase « la souris est mangée par le 3 petits points », GPT-3 va mobiliser ses connaissances antérieures pour proposer différentes possibilités accompagnées de probabilités. Il va bien sûr suggérer en premier le chat avec une probabilité élevée, mais il peut également suggérer chien ou même serpent avec une probabilité plus faible. Ensuite, le moteur choisira aléatoirement une réponse parmi ces possibilités en respectant les probabilités associées. Donc pour mieux comprendre ce fonctionnement, je vous propose un court extrait d'une conférence d'Andrej Karpathy dans lequel il explique les sources de données utilisées par Meta pour entraîner leur moteur ainsi que la manière dont ces données sont traitées pour en extraire des informations exploitables.
Data. Here's an example of what we call a data mixture that comes from this paper that was released by Meta where they released this llama-based model. Now you can see roughly the kinds of data sets that enter into these collections. So we have Common Crawl, which is just a web scrape, C4, which is also Common Crawl, and then some high-quality data sets as well. So for example, GitHub, Wikipedia, Books, Archive, Stack Exchange, and so on. These are all mixed up together, and then they are sampled according to some given proportions, and that forms the training set for the neural net, for the GPT. Now before we can actually train on this data, we need to go through one more pre-processing step, and that is tokenization. And this is basically a translation of the raw text that we scrape from the internet into sequences of integers, because that's the native representation over which GPTs function.
Alors, Andrej Karpathy nous expose ici que les données utilisées proviennent principalement de l'indexation automatique du web, c'est-à-dire du web crawling, comme nous l'a expliqué Océane. Et cela représente environ 80% du corpus de données. Mais elles proviennent également de sources comme Wikipédia US, GitHub, des livres et des archives publiques. Tous ces textes collectés sont ensuite découpés en mots et transformés en une suite de nombres entiers, ce qu'on appelle la tokenization. Cette transformation permet de créer des liens statistiques entre les mots afin de détecter des sortes de relations de cohérence entre eux. Donc pour générer une réponse à une question d'un utilisateur, il suffit de rédiger un texte d'introduction du type « Ceci est une conversation entre un humain et un chatbot très savant qui est toujours gentil, poli, bienveillant et aidant », puis d'ajouter la question de l'utilisateur. Ce texte initial qui sert de point de départ au moteur est appelé « prompt ». GPT-3 va ensuite compléter ce texte de la meilleure façon possible en se basant sur des données d'entraînement. Bien sûr, je simplifie le fonctionnement réel, mais je pense que vous avez compris l'idée générale. Ce qui m'a semblé particulièrement intéressant, c'est que lorsque l'on comprend mieux le fonctionnement de ChatGPT, on obtient des indices sur la façon de l'utiliser et sur ses réelles capacités. Par exemple, cela nous apprend deux choses importantes. Tout d'abord, cela explique pourquoi pour la même question, ChatGPT peut nous fournir de multiples réponses différentes. Et en outre, même si le modèle est ensuite ajusté par des humains pour vérifier la cohérence des réponses, il est crucial de comprendre que la véracité des réponses du chatbot n'est pas un critère d'évaluation. C'est principalement la fréquence des associations de mots dans le corpus d'entraînement qui influence la formulation de la réponse finale. Il est donc évident que la qualité des réponses proposées par un agent conversationnel dépend largement de la qualité des données choisies pour son entraînement. En ce qui concerne ChatGPT, on peut se poser des questions sur la fiabilité des données d'entraînement, mais je laisserai à Eva vous parler plus tard des limites de ces nouvelles technologies qui révolutionnent notre manière de rechercher l'information.
Merci beaucoup Martin, merci. Alors on a mieux compris comment ça fonctionnait alors ces fameux robots conversationnels. Alors tu vois, j'ai une question de Samy qui vient anticiper un petit peu, qui vous demande peut-être à toutes et à tous, que pensez-vous de l'association entre moteurs de recherche et robots conversationnels? C'est vrai qu'on a vu, il y a l'exemple de Bing par exemple, qui a maintenant intégré un mode de conversation à son moteur de recherche. Et donc il y a, voilà, comme on peut parfois rechercher soit des images, des actualités ou des choses comme ça, maintenant il y a un mode conversationnel, où on a la possibilité de faire une recherche en s'appuyant donc sur un robot conversationnel. Quel peut être l'apport de ce type de fonctionnalité en plus? Et puis, est-ce que ça apporte quelque chose? As-tu quelques éléments là-dessus, Martin?
Alors, de mon côté, je pense que c'est une très bonne idée. C'est un changement d'interface qui est vraiment intéressant pour l'utilisateur. On a vraiment l'impression d'avoir une discussion et ça change complètement la relation qu'on avait avec les moteurs de recherche qui fonctionnent plus par mots-clés. Donc ça peut être une accessibilité plus simple. Mais par contre, je rejoindrai Océane sur le choix de l'usage de cette technologie. Comme vous l'expliquera sûrement tout à l'heure à Eva, il y a un problème de données qui ne sont pas forcément sourcées ou qui ne sont pas forcément véridiques et ni vérifiées. Donc je pense que c'est un usage à apprendre à maîtriser pour pouvoir l'utiliser pleinement, mais c'est quelque chose qui peut être très intéressant, oui.
D'accord, merci Martin. Et donc, tu nous fais un petit peu de suspense pour la suite. On va écouter Eva avec attention tout à l'heure. Mais avant, donc Tom, tu vas nous parler en premier des certaines limites des moteurs de recherche. C'est à toi, Tom, si tu es prêt.
Bonjour à toutes et à tous. Je vais maintenant vous parler des limites qui peuvent poser problème avec l'utilisation des moteurs de recherche. Les moteurs de recherche peuvent être notamment Google, Bing, Yahoo ou Quant. Lors de mon intervention, je vous présenterai également un extrait audio qui me permettra d'appuyer mes propos. Pour pouvoir voir les limites d'un moteur de recherche, il faut s'attarder sur l'algorithme qu'il y a derrière celui-ci. Pour commencer, on peut parler des problèmes induits par le ranking. Je vais vous décrire brièvement ce qu'est le ranking. Donc, comme l'a dit Océane tout à l'heure, en prenant l'exemple du PageRank, le PageRank de Google, le ranking, c'est ce qui désigne la position qu'occupe un site sur les pages de résultats des moteurs de recherche. C'est donc ce qui fait qu'un site sera classé en première page ou à la fin, selon tout un tas de critères décrits dans des algorithmes. Ces algorithmes sont réalisés pour classer des résultats en fonction de leur pertinence présumée. Cependant, ces algorithmes ne sont pas parfaits et peuvent encore produire des résultats qui ne répondent pas pleinement aux attentes des utilisateurs. Il est également possible que des informations fausses ou trompeuses apparaissent dans les résultats de recherche. De plus, pour accéder aux méthodes de tri d'un moteur de recherche, ça peut être assez compliqué, étant donné qu'ils sont assez opaques et complexes, voire incompréhensibles pour la plupart des utilisateurs. Je vais maintenant vous passer à un audio qui vous permettra peut-être de mieux comprendre ce système de classement et les nombreux critères qui sont pris en compte pour le réaliser.
Dans le cas de Google, ces robots viennent parcourir votre site afin d'étudier de très nombreux critères, comme la qualité technique de votre site, excellente sur mon site, la qualité des contenus textes ou images, ou encore la vitesse d'affichage, la simplicité de navigation, etc. Et ainsi, ils calculent, au travers de ces différents algorithmes, vos notes. Ils positionnent alors votre site parmi beaucoup d'autres sur différentes recherches dans les résultats de son moteur. Il va donc falloir plaire aux algorithmes et donc répondre le mieux possible aux centaines de critères pris en compte par Google pour mieux calculer vos notes. Certains critères sont techniques et donc simplement issus de votre choix initial d'outils de création de site web. Je vous conseille donc très fortement d'utiliser mon site pour créer un site performant dans Google. D'autres critères sont liés au contenu de votre site, par exemple le volume et la qualité de ses contenus. Enfin, il existe également des critères externes, par exemple comme le nombre et la qualité des liens que votre site...
Dans cet extrait, le géant de la chaîne YouTube immonsite.com prend l'exemple de Google, avec ses nombreux robots qui permettent le classement des pages. Mais cette procédure est la même, quel que soit le moteur de recherche utilisé. Ce classement, le ranking, qui est tout de même nécessaire, pose plusieurs problèmes. Je vais vous donner plusieurs exemples de problèmes que cela soulève. Pour commencer, ces algorithmes ne sont pas très transparents, car les critères exacts de classement ne sont pas divulgués. Pour lutter face à cette opacité, Algorithm Watch, qui est une organisation de recherche basée à Berlin, se concentre sur l'analyse et la surveillance des systèmes algorithmiques dans divers domaines, dont les moteurs de recherche. Ils ont mené des recherches sur la transparence des algorithmes de recherche de Google et ont plaidé en faveur de normes plus strictes en matière de transparence. Ensuite, il peut parfois être difficile de retrouver l'information précise que l'utilisateur cherche. Étant donné le nombre énorme d'informations présentes sur Internet, il est alors très difficile, suivant la requête tapée, de trouver l'information du premier coup. Par exemple, si c'est quelque chose qui n'est pas très souvent recherché ou qui appuie sur un point très précis. Également, certaines informations peuvent être périmées, c'est-à-dire non modifiées entre le moment de publication de la page web et le moment de consultation par le lecteur. Certains éléments peuvent être des chiffres, des connaissances ou tout type d'informations, ont pu changer entre-temps et ne sont plus vrais au moment de lecture. Cependant, pallier à ce problème est très compliqué car il est difficile de faire vérifier chaque information par les robots de tri. Finalement, si on prend l'exemple de Google, ils travaillent en collaboration avec des centaines de marques pour favoriser leur classement de leurs pubs. Ainsi, les résultats de recherche sont toujours placés selon leur pertinence, mais après ces publicités. Mais ce n'est pas le cas de tous les moteurs de recherche. Un exemple bien connu, DuckDuckGo, met l'accent sur la vie privée des utilisateurs et l'absence de suivi. Ce moteur ne personnalise donc pas les résultats de recherche en fonction de l'historique de l'utilisateur, ni n'accepte de paiement pour y introduire des publicités payantes, contrairement aux géants appartenant aux GAFAM, Google.
Merci Tom pour toutes ces explications-là. Alors effectivement, hein, tout ce que tu viens de nous dire là tout en dernier abonde dans le sens de ta réponse, Océane, quand tu disais qu'il fallait mieux diversifier ses usages, hein, quand on voit que voilà, les moteurs de recherche vont fonctionner différemment. Il y a plusieurs questions sur Mattermost des étudiants et étudiantes qui vous écoutent, qui t'ont écouté, Tom. Alors, plusieurs questions à propos eh bien, justement des différentes façons de fonctionner des moteurs de recherche, par exemple. Est-ce que Lucas se demande si le fonctionnement des outils de recherche plus précis comme Google Scholar est différent du fonctionnement d'un moteur de recherche comme Google? Est-ce que aussi les méta-moteurs de recherche dont tu parlais au sein en première partie fonctionnent différemment? Est-ce que tu aurais quelques idées, quelques éléments pour nous préciser en quoi ces fonctionnements sont différents?
Je ne connais pas vraiment la différence entre les moteurs de recherche et les méta-moteurs.
Ouais, c'est assez spécifique, pointu comme question. Ouais. Hein, non, pas de problème. Mais oui, alors tu parlais de DuckDuckGo, par exemple, qui pour le coup, là, la grande différence de DuckDuckGo, c'est que les résultats des recherches qui nous seront affichés ne dépendent pas de notre propre historique de navigation. Il n'y a pas de suivi comme ça.
Ouais, et pas de cookies, de choses comme ça.
Pas de cookies, ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne rapidement, cette histoire de cookies-là?
Les cookies, en fait, c'est des données personnelles qu'on va... On va autoriser le site à collecter ces données pour qu'il puisse après s'en servir soit pour les revendre à d'autres sites ou partager ces informations à d'autres sites, ouais.
Bon, c'est une forme de suivi de notre navigation, effectivement. Et sais-tu comment on peut faire? Alors, si on veut utiliser un moteur de recherche qui suit ces cookies-là, peut-on toujours utiliser des moteurs de recherche, mais sans en se débarrassant de ces cookies?
Oui, c'est possible. Bah, ça dépend des navigateurs de recherche. Du coup, là, avec l'exemple de DuckDuckGo, il n'y a pas ce problème de cookies. Donc, on peut s'en débarrasser comme ça, selon le navigateur.
D'accord, et ouais, là tu es en plein mood navigateur, hein, effectivement, ce logiciel qui nous permet d'afficher des pages web, à faire bien différencier aussi navigateur web et puis moteur de recherche. On est sur deux choses différentes. Ok Tom, merci à toi pour toutes ces réponses-là. Alors on va passer à la partie d'Aeva. Aeva, tu vas revenir sur le sujet des robots conversationnels, hein, puisque vous articulez ces deux sujets dans votre présentation tous les cinq. Alors Aeva, tu vas nous expliquer en quoi les robots conversationnels vont dépasser certaines limites des moteurs de recherche que tu viens de nous évoquer, Tom. Aeva, si tu es prête, eh bien, écoute, c'est à toi.
Oui, exactement. Donc, comme l'a dit Audrey, je vais à présent revenir sur les robots conversationnels pour pouvoir les comparer aux moteurs de recherche et notamment comparer leurs limites. En effet, on peut se demander si les robots conversationnels dépassent certaines limites des moteurs de recherche ou si, au contraire, ils en ajoutent de nouvelles. Dans un premier temps, on peut en effet dire que les robots conversationnels effacent certaines limites liées aux moteurs de recherche. Cela se voit premièrement au niveau du classement des informations. Avec un moteur de recherche, les sites sont classés avec ce qu'on appelle le ranking, qui a été expliqué plus tôt. Et comme l'expliquait par exemple Tom juste avant, ceci n'existe pas avec les robots conversationnels étant donné que les informations sont toutes issues de bases de données. De ce fait, toutes les limites liées au ranking énoncées plus tôt n'existent pas dans ce cas-là, puisque ça ne fonctionne pas pareil. De plus, certains moteurs de recherche, comme Google, font des recommandations issues de partenariats, ce qui biaise les résultats. En effet, les premiers résultats de la recherche ne seront plus les mieux adaptés selon les algorithmes qui les font fonctionner, mais ceux qui auront payé pour attirer notre attention. Comme c'était également expliqué avant, au contraire, avec les robots conversationnels, il n'y a pas ce genre de problème puisque les résultats sont issus, encore une fois, de bases de données. Pour illustrer mon propos et faire une transition vers la suite de ma présentation, je vais à présent vous faire écouter un extrait d'une interview avec Sam Altman, le cofondateur et PDG de OpenAI. L'extrait est tiré de la vidéo Strictly VC in Conversation with Sam Altman Part 2 OpenAI, disponible sur YouTube sur la chaîne de Connie Loizos. À ce moment de l'extrait, Sam Altman explique suite à une question quel est son avis sur le fait que sa technologie, donc ChatGPT, serait la fin de Google.
Technology being the end of some other giant company is usually wrong. Like, I think people forget they get to make a counter move here, and they're like pretty smart, pretty competent. But I do think there is a change for search that will probably come at some point. But not as dramatically as people think in the short term. My guess is that people are going to be using Google the same way people are using Google now for quite some time. And also Google, for whatever this whole like code red thing is probably not going to change that dramatic, would be my guess. UBI, I think UBI is good and important, but very far from sufficient. I think it is like a little part of the solution. I think it's great. Like, I think we should, as AGI participates more and more in the economy, I think we should distribute wealth and resources much more than we have. And that'll be important over time. But I don't think that's gonna like solve the problem. I don't think that's gonna give people meaning. I don't think it means people are gonna like entirely stop trying to create and do new things and whatever else. So I sort of would consider it like an enabling technology, but not.
Dans cet extrait, Sam Altman explique que selon lui, sa technologie ne remplacera pas Google, car Google sera toujours utilisé plus ou moins pour les mêmes raisons. Pour aller plus loin que les moteurs de recherche, il explique aussi que, à son avis, les IA seront une technologie à part et qu'elles ne remplaceront pas quoi que ce soit. Les gens continueront de créer, d'utiliser Google, et les IA ne bouleverseront pas la société ni ne nous régleront aucun de ces problèmes. Cela m'amène donc vers mon point suivant, les limites des robots conversationnels. En effet, dans un second temps, on peut aussi dire que les robots conversationnels ajoutent de nouvelles limites qui leur sont parfois propres. Tout d'abord, leurs algorithmes de fonctionnement sont tout aussi complexes que ceux des recommandations des moteurs de recherche. En effet, ils sont basés sur des modèles mathématiques plutôt difficiles à comprendre. Il y a un effet « boîte noire », entre guillemets. Dans la mesure où, entre la demande de l'utilisateur et ce qui est donné en réponse, il est difficile de comprendre ce qu'il se passe. Tout ceci est plutôt opaque. Le principal problème de cette opacité est qu'elle rend plutôt difficile le fait d'agir si le robot rencontre des problèmes ou s'il commence à agir de manière inattendue. On a pu remarquer des réponses racistes ou bien sexistes de la part de ChatGPT. Les algorithmes étant opaques, on ne peut pas agir directement sur un paramètre pour que cela n'arrive plus. Ensuite, une autre limite des robots conversationnels est qu'il est impossible de vérifier la source. Ainsi, on ne peut pas directement savoir d'où une information est tirée, ce qui peut mener à penser que les réponses sont plutôt douteuses. De plus, si les robots ne donnent pas leur source, c'est parce qu'il n'y en a pas. Ceci est directement lié au fonctionnement des robots conversationnels. Comme l'expliquait Martin au début, les robots conversationnels fonctionnent sur un système de statistiques et de probabilités, le tout appliqué sur de très nombreuses données. Ainsi, la réponse que donnera le robot à une demande de l'utilisateur ne sera pas la plus vraie, mais seulement la plus probable au vu de la demande. Par exemple, si l'on revient sur l'exemple cité plus tôt, la souris a mangé par, et que le robot répond le chat, ce n'est pas parce que c'est la réponse qui fait le plus sens, mais bien parce que c'est la plus probable. Ainsi, en s'adressant à un robot conversationnel, on n'a aucune certitude d'obtenir une réponse vraie, mais seulement la réponse la plus probable que le robot aura trouvée. Pourtant, bien que les robots conversationnels puissent surmonter quelques limites des moteurs de recherche, ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, il se peut que les robots conversationnels fournissent des informations périmées si leurs bases de données sont trop datées et ne pourront pas répondre de manière optimale aux demandes des utilisateurs. De plus, à l'instar des moteurs de recherche, les robots conversationnels ne peuvent pas toujours fournir une information précise que demande l'utilisateur ou bien l'ensemble des informations.
Merci à Eva. Alors effectivement, tu nous as bien parlé de cet effet boîte noire hein, des robots conversationnels. Et c'est vrai que même quand on va demander à un robot conversationnel, mais donne-moi les sources de, qui, sur lesquelles tu t'appuies pour me donner cette réponse-là, on va avoir une réponse qui nous dit bah non, moi en tant que modèle statistique, de structure linguistique, de schéma de texte, je ne peux pas vous donner les sources. Donc on ne peut pas retrouver les sources. Et là, on a un vrai problème de littératie numérique pour le coup. Hein, je remploie le terme que vous avez utilisé au tout début. Et donc, tu nous disais qu'on n'a pas la main là, pour aussi agir si on a une réponse absurde qui sort d'un robot conversationnel. On n'a pas la main pour comprendre exactement les mécanismes qui ont abouti à cette réponse-là. Alors, je vais te relayer une question de Paul qui se demande si l'on peut influencer les réponses de ChatGPT, en l'occurrence, en fonction de ses données d'entraînement. Est-ce qu'au moins, là, on peut orienter les réponses que l'on va avoir en fonction des données qui vont alimenter ces modèles-là? Est-ce que ça marche comme ça?
Alors, juste pour préciser la question, est-ce que du coup, nous-mêmes, en tant qu'utilisateurs, on peut influencer ChatGPT? Ou alors, si les données qu'on utilise pour l'alimenter peuvent influencer?
Alors, je pense que dans le sens de Paul, ça devrait être plutôt les données que l'on va donner pour alimenter le modèle. Mais on pourrait imaginer ça, effectivement. Est-ce qu'on influence nous-mêmes? C'est une bonne question aussi. Est-ce que l'on influence nous-mêmes le modèle lorsqu'on l'utilise? Est-ce que tu as quelques éléments là-dessus?
Du coup, pour d'abord la question par rapport à ce que les données influencent ChatGPT, je pense qu'on peut dire que oui, parce que ChatGPT va en fait tirer toutes ses réponses de ses bases de données, justement, donc comme ça a été expliqué avant, à partir de tous ses calculs mathématiques, les probabilités, etc. Et du coup, toutes les réponses viennent de ces bases de données. Du coup, forcément, quand je parlais tout à l'heure de réponses racistes et sexistes, si ces réponses-là, c'est parce que en réalité, quand C'est parce que dans ces bases de données, il existe du coup ces réponses racistes et sexistes. Et du coup, je pense que c'est pour ça que... Je pense que oui, complètement. Les réponses de ChatGPT sont complètement influencées par les bases de données. Par contre, je ne pense pas qu'elles soient influencées par les utilisateurs, étant donné que justement tout vient des bases de données. Et on ne peut pas du coup... je ne pense pas qu'on puisse entraîner nous-mêmes... le robot a donné certaines réponses.
Ouais, d'accord. Ou alors il faudrait imaginer d'autres types
ou
après
d'agents
conversationnels qui évolueraient comme cela à venir à voir. Donc d'accord, merci. Merci à Eva pour ta réponse. On va passer à la dernière partie de votre exposé. Déjà, ce sera Alexandre qui va clôturer. Donc votre exposé, tu vas nous parler de quelques initiatives pour essayer de, eh bien, d'améliorer la fiabilité de quelques, des résultats de recherche que l'on peut avoir. Alexandre, est-ce que tu es prêt ?
Oui,
tu m'as dit c'est à toi. Allez, go.
Donc bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet crucial. Comment améliorer la fiabilité des informations proposées par les moteurs de recherche et les robots conversationnels. Donc, comme Aïva nous l'a montré précédemment, ces outils fantastiques peuvent parfois nous induire en erreur. Alors, quelles sont les solutions envisagées pour faire face à ces problèmes? Tout d'abord, une piste à explorer, c'est la détection des informations erronées. Imaginons des systèmes capables de repérer les informations incorrectes ou trompeuses pour les signaler à l'utilisateur ou de les retirer de l'index de recherche. Cela pourrait prendre la forme d'algorithmes sophistiqués capables de vérifier l'exactitude d'une information en croisant plusieurs sources ou d'équipes de modérateurs humains examinant manuellement le contenu douteux. Une autre approche consisterait à vérifier les informations avant même qu'elles ne soient intégrées dans la base de données des moteurs de recherche ou des robots conversationnels. Imaginez une armée d'experts dans différents domaines veillant à ce que les différentes informations soient correctes, actualisées et fiables. Il est également crucial d'améliorer la transparence des réponses. Il est important pour nous tous de comprendre comment et pourquoi une certaine information nous a été proposée. Cela pourrait signifier rendre les algorithmes de recherche plus compréhensibles pour nous, le grand public, et fournir des informations sur la source des données pour que nous puissions juger de leur fiabilité. Donc là, on va vous passer un extrait audio de Demain des intelligences artificielles françaises et éthiques qui est disponible sur la chaîne YouTube de Europe 1.
En France, une mission sur l'intelligence artificielle, baptisée AI for Humanity, a été lancée par le gouvernement afin de poser les bases d'une stratégie nationale ambitieuse. Il s'agit de développer les talents en doublant le nombre d'étudiants et de créer des grands instituts interdisciplinaires de l'intelligence artificielle. Il est question également de fabriquer de grandes bases de données, de les ouvrir afin de les exploiter dans les domaines de la santé, de l'agriculture ou du transport, et toujours dans le respect de la vie privée, sans oublier l'importance de la transparence des algorithmes et de leur caractère éthique. Dans la continuité de ce plan AI for Humanity, un manifeste pour une intelligence artificielle au service de l'industrie a été signé par plus d'une dizaine de groupes industriels français.
Donc cet extrait nous emmène au cœur de l'initiative AI for Humanity du gouvernement français. Cette initiative vise à augmenter le nombre d'étudiants en IA, à créer de grandes bases de données ouvertes et à développer des IA transparentes et éthiques. Un manifeste sur l'IA au service de l'industrie a également été signé par une dizaine d'industriels français, soulignant l'engagement du pays en faveur d'une IA responsable et bénéfique pour tous. Enfin, des audits et des correctifs réguliers sont nécessaires pour identifier et corriger les erreurs et les biais présents dans les moteurs de recherche et les robots conversationnels. Ces audits pourraient être effectués par des organisations indépendantes qui s'assureraient que les outils respectent les principes d'équité, de transparence et de respect de la vie privée. Pour conclure, il est certain que les moteurs de recherche et les robots conversationnels sont des outils très utiles, mais il y a encore du chemin à parcourir pour qu'ils fournissent des informations fiables et précises. Avec des initiatives comme AI for Humanity, je suis confiant que nous sommes sur la bonne voie. Nous avons donc exploré aujourd'hui le monde fascinant des moteurs de recherche et des robots conversationnels, soulignant leur immense valeur en tant qu'outils pour naviguer sur le vaste univers de l'information en ligne. Cependant, malgré leur sophistication, ils présentent des défis et des limites, notamment dans la façon dont les informations sont classées et présentées, l'opacité des algorithmes et la difficulté de vérifier les sources. Mais nous avons aussi vu des initiatives prometteuses visant à améliorer la fiabilité et la transparence de ces outils, offrant une perspective positive pour l'avenir. En comprenant mieux ces technologies, nous pouvons les utiliser de manière plus éclairée et efficace. Nous vous encourageons donc à rester curieux et nous vous souhaitons une bonne après-midi. Merci de nous avoir écoutés.
Merci à toi, Alexandre. Merci beaucoup. Alors, effectivement, tu nous donnes de l'espoir, là, nous donner plein de pistes. Hein. On y croit, on a envie que ça se passe comme ça, effectivement, de trouver une IA transparente, éthique, etc. Alors, c'est un projet intéressant. Mais à ce stade de la conversation, on pourrait se demander, alors, qu'est-il réellement possible de faire avec ce type de fonctionnement, le machine learning, les fonctionnements statistiques à la base des robots conversationnels qui existent actuellement, qu'est-il réellement possible de faire? C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, je reprends une question d'Aria qui se demande si les développeurs, les développeuses qui sont à l'origine de ces robots conversationnels-là ont la main pour corriger vraisemblablement les réponses qui vont sortir de ces robots conversationnels. Hein. Aïva, tu nous parlais de problèmes de réponses sexistes, racistes, par exemple. Est-ce que les développeurs, les développeuses ont actuellement la main pour éviter ces réponses-là et puis aussi améliorer les réponses après dans d'autres voies, voilà. Mais à quel point les développeurs ont la main à ce stade-là?
Alors, je pense que oui, les développeurs ont la main. Je ne pourrais pas dire à quelle mesure, parce qu'ils ne peuvent pas inventer les réponses, vu que les réponses, comme l'a dit Martin, se basent sur une sorte d'aléatoire probabiliste. Mais d'une autre manière, au départ de ChatGPT, comme l'avait dit Aïva, il y avait des réponses sexistes, racistes, qui ont par la suite été corrigées par des mesures d'entraînement et par des signalements des utilisateurs lors de réponses inappropriées. Donc les développeurs derrière ont pu utiliser ces réponses pour comprendre le fonctionnement de l'algorithme derrière et modifier ou voire même supprimer ces réponses quand elles n'étaient pas adaptées. Donc en effet, les programmateurs derrière ont une main, ont le contrôle sur la modification du système.
Oui, il y a une forme de régulation comme ça qui se fait a posteriori. D'accord. Merci Alexandre. Et puis après, une question qui pourrait se poser, c'est est-ce qu'on pourrait avoir à un moment donné un robot conversationnel qui serait en mesure de nous fournir toute la mécanique du raisonnement qui amènerait aux réponses? On sait pour l'instant c'est impossible, ça ne fonctionne pas comme ça. Hein, vous nous avez bien expliqué, c'est un fonctionnement statistique probabiliste. Donc, il n'y a pas la possibilité de suivre un raisonnement et nous permettent de comprendre comment on parvient à telle ou telle réponse. Et donc là, pour le coup, si un tel projet est en route, un tel projet est-il en route, savez-vous cela? Vous qui avez travaillé sur le sujet, hein, ben non, vous me faites non pour l'instant. Eh bien, écoutez, on verra à suivre. Alors, bravo à tous les cinq pour votre présentation, pour votre travail. C'était donc une présentation sur les moteurs de recherche, les robots conversationnels. Bravo à vous. Alors, vous pourrez réécouter cette émission sur graphite.net, bien évidemment, et puis aussi sur l'instance Peertube à peri.tube. Ce sera sur la chaîne WE1. Les podcasts de cette émission seront ensuite à retrouver par là. Venez faire un tour aussi sur librecours.net hein, pour retrouver les supports de cours de WE1. Venez aussi, si vous le souhaitez, sur team.picassoft.net pour venir échanger avec nous. Et puis, on va se retrouver dans quelques instants pour écouter une seconde présentation de trois étudiants de WE1. Ce sera cette fois au sujet de ce qu'on appelle les intelligences artificielles génératives. À tout à l'heure.